gentile, vous le savez. On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
Bonjour, bienvenue sur Radio B.
La radio des bonnes ondes.
La radio 100% locale.
Nous sommes
Akram,
Hichem,
Luciano
et Lucas.
On est en direct de la prison de Bourg-en-Bresse. Dans cette émission, nous avons choisi de parler d'environnement.
C'est un sujet d'actualité. On voit bien que le dérèglement climatique est en cours.
La question est donc la suivante. Peut-on encore vivre en harmonie avec une nature que nous avons déréglée? Face à une démographie mondiale qui ne cesse d'augmenter, dont découle une urbanisation croissante et des surfaces agricoles démultipliées, les espèces naturelles réduisent. Les scientifiques, particulièrement ceux du GIEC, alertent depuis plusieurs décennies sur plusieurs points. Une hausse des températures globales, une modification des phénomènes météo, une réduction des réserves en eau potable et une extinction massive du vivant, environ 70% toutes espèces confondues de la biomasse. Malgré cela, la recherche de la croissance économique, celle qui permet notre confort de vie moderne, mais celle aussi qui détruit les espèces sauvages, se poursuit. Alors est-il encore possible pour l'humanité de vivre en harmonie avec la nature? Et reste-t-il une possibilité de trouver un équilibre entre nos besoins et la conservation du patrimoine naturel planétaire?
Aujourd'hui j'ai de la chance, je suis encore là. Je vais pouvoir voir le ciel encore une fois. L'air pur ici aussi se fait si rare que même les clébards disent qu'il y en a marre de respirer cette merde à plein poumon. Tout ça pour qu'un petit con gagne des millions. Tu sais que notre vie de chien ne suffit bien. Pas besoin de choper le cancer des êtres humains. Nous paierons cher sans doute votre insolence. Vous jouez avec ce monde par négligence. Les frontières de vos cartes n'y feront rien. Cette terre n'est pas à nous, vous le saurez bien.
Et vous, qu'en pensez-vous?
On a interrogé d'autres personnes à ce sujet.
Si je vous dis dérèglement climatique, vous pensez à quoi?
Inondations, des vagues, des chaleurs, c'est tout mélangé.
Ça peut attaquer les côtes, les littoraux. Comme au Bangladesh, on recule les villes les plus proches des côtes. Et ça pourra peut-être arriver un jour chez nous.
Je pense à l'impact de l'homme sur son environnement, sur la planète. Ça date de... depuis très longtemps, mais ça s'accélère de plus en plus et les effets sont de plus en plus forts. On le voit aujourd'hui. Et malheureusement, on a l'impression qu'on n'en prend pas conscience et qu'on n'agit pas en conséquence.
La hausse des températures, surtout qu'on arrive en plein été, la sécheresse. Maintenant, enfin, on parle d'été, on parle de canicule chaque année. La plus grosse qu'on avait connue, c'était en 2003. Maintenant, c'est chaque année. Et l'été commence plus tôt, il finit de plus en plus tard.
Quand moi j'entends dérèglement climatique, personnellement, moi j'entends beaucoup l'avidité de l'homme, le fait qu'il prenne beaucoup de la nature et qu'il la détruise sans responsabilité.
Les gens n'en prennent pas assez conscience. Donc ce qu'il faut penser avant toute chose, c'est quand même que la terre est nourricière et que c'est l'avenir de nos enfants. Il faudrait peut-être un peu plus s'y investir.
Et selon vous, que devrait-on faire pour préserver notre planète?
On doit limiter notre consommation des ressources. Et faire attention aux énergies, que l'électricité, le chauffage, tout ça, limiter quoi.
Ouais, limiter les émissions de CO2, je pense que c'est vraiment le plus important. Le trafic aérien, parce qu'on dirait pas, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'avions chaque année, et ça pollue énormément. Après, d'un point de vue individuel, je pense qu'on peut tous faire un petit geste en fait au niveau de l'eau. Enfin, calmer notre consommation d'eau. Des petits gestes tout bêtes, débrancher nos chargeurs de téléphone. quand on part. Éteindre les appareils électriques quand on part de la maison.
Consommer plus local, plus proche de nous, plus proche de notre environnement, des gens à côté de chez nous.
Déjà éviter tous les déchets qu'on voit dans les coins de rue. Éviter de se balader en voiture si on n'a pas la nécessité, si on a un vélo, ou marcher à pied, que ça fait bien pour la santé. Et ensuite, planter des arbres, au lieu de les couper pour rien faire, planter, ça je pense que c'est une bonne idée.
En prendre conscience et avoir des gestes peut-être un peu plus citoyens. Tri sélectif, pollution, ne pas prendre sa voiture quand on habite à 5 minutes de son travail. Plein de petites choses comme ça qui ne coûtent pas cher et qui peuvent faire avancer les choses.
Déjà une bonne prise de conscience du monde qui nous entoure, de la nature, d'à quoi elle sert. Donc éduquer, je pense, déjà les nouvelles générations à s'apprêter au monde de demain, à préserver la nature surtout, et leur montrer, leur prouver que en fait on fait un peu un en fait avec cette planète, et que soit on avance tous ensemble et pour le meilleur du monde, soit on fout son droit dans le mur, on la détruit, on se détruit nous-mêmes.
Merci à toutes les personnes qui ont répondu.
On voit que tout le monde a conscience de la situation. Hichem et Akram, vous avez fait des recherches à ce sujet.
Le réchauffement climatique actuel nous fait traverser une période jamais connue auparavant.
À quoi c'est dû ?
Les scientifiques sont formels. L'effet de serre est un phénomène naturel. Il permet de réchauffer la planète. Mais l'activité humaine vient dérégler cette mécanique. Elle fait s'élever le niveau de dioxyde de carbone, de méthane ou le protoxyde d'azote. La température a augmenté de 0,8 degrés depuis le 19e siècle. Et ce n'est que le début.
À quel moment l'activité humaine impacte-t-elle l'environnement ?
Il y a trois causes qui contribuent à ce réchauffement. La combustion du gaz, la déforestation et l'agriculture intensive. En gros, ce qui se passe en ce moment, c'est l'équivalent de trois bombes atomiques qui explosent chaque seconde.
Ah ouais ? Et quelles sont les conséquences ?
On les observe dans notre quotidien. L'augmentation des températures, l'élévation du niveau des mers, avec la fonte des glaciers et la calotte polaire. De plus en plus de précipitations au nord, la sécheresse dans les zones arides et la réduction du débit des fleuves. Et l'acidification des océans avec un impact sur les coquillages, les crustacés et les planctons.
J'ai entendu parler du GIEC aux infos, c'est quoi ?
Le GIEC, c'est le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Dans leur rapport publié en 2022, ils listent les conséquences du changement climatique dans différents domaines.
Par exemple ?
Dans le domaine de l'agriculture, perte de récolte, dégradation des sols.
Et il y a une solution ?
L'agroécologie. L'idée, c'est de diversifier les cultures et de valoriser l'agriculture biologique.
D'autres conséquences ?
Oui, sur la biodiversité, 1 million d'espèces, plantes et animaux sont menacées. Sur la santé aussi, les maladies liées à l'alimentation et à l'accès à l'eau vont augmenter. Les maladies en lien avec les animaux aussi. Et puis des inégalités de plus en plus fortes entre les zones du globe, les pays du Sud étant les premiers touchés. On sait déjà qu'aujourd'hui, la mortalité dans ces pays est 15 fois supérieure à celle des pays du Nord à cause du réchauffement climatique.
Concrètement, en France, il va se passer quoi ?
Des vagues de chaleur, il va faire plus chaud, plus longtemps et de plus en plus fréquemment avec des zones urbaines très touchées.
Bon, mais là, cet été, il ne fait pas si chaud.
Oui, on a même eu pas mal de pluie, mais pas assez pour remplir nos nappes phréatiques. Et les périodes de sécheresse vont être plus fréquentes. Un tiers des personnes du sud de la France pourraient manquer d'eau.
Et du côté de l'agriculture ?
On l'a dit plus haut. Moins de rendement, donc une sécurité alimentaire qui ne sera plus assurée.
Oh là là, et t'as encore des points à rajouter ?
Eh oui, la France est l'un des pays les plus menacés par l'inondation en Europe. Avec ses 5800 km de côtes maritimes, c'est la montée du niveau de la mer et l'érosion qui risque de mettre en danger plus d'un million de Français.
Le constat est alarmant. On sait aussi que tous ces phénomènes se cumulent et ont un impact sur la biodiversité.
C'est quoi la biodiversité ?
C'est la variété des formes de vie sur la Terre, les végétaux, les êtres humains, les animaux et les insectes.
Et en parlant d'insectes, on sait que les abeilles ont un rôle essentiel à jouer.
Oui, elles sont importantes dans le cycle de la vie.
Charles-Philippe est apiculteur dans la Bresse. On en discute avec lui.
Bonjour à vous quatre.
Alors tout d'abord, est-ce que vous constatez un impact du dérèglement climatique sur vos ruches ?
Oui, bien sûr, sur les ruches et sur les arbres. Donc par exemple, il y a du stress hydrique qui va se répercuter sur les floraisons des fleurs mellifères et des arbres. Ensuite, les floraisons, elles se décalent. Alors ça, c'est un terme technique qui s'appelle la phénologie. Et en fait, le temps à laquelle une certaine fleur va fleurir et sa durée de floraison va être changée. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Le colza, normalement, il peut fleurir 15 jours ou 3 semaines. Mais s'il fait très chaud et très sec, ça va se raccourcir. Et les abeilles, ça va être très très dur pour elles de récolter.
Est-ce que ça a changé par rapport, alors même si elles travaillent plus, ces abeilles, est-ce que ça baisse leur nombre? Est-ce qu'elles se reproduisent moins? Est-ce qu'elles...
Oui, malheureusement, lorsque j'ai fait mes études d'apiculture à Laval en 2009, on avait eu déjà des études de la production de miel française et malheureusement, la production allait une pente décroissante. Elles ont de plus en plus de mal à récolter. Il n'y a pas de moins en moins d'abeilles parce que les apiculteurs travaillent de plus en plus, mais ça leur coûte de plus en plus cher. Nous, notre travail, c'est pas tellement de se focaliser sur le miel. C'est surtout d'élever des abeilles et de les mettre aux endroits où elles ont de la nourriture.
Très bien. Et du coup, quel impact cela a sur la production de miel? Je suppose forcément qu'il y a un impact.
Eh ben, ça diminue la quantité, comme on disait, ça diminue la quantité. Ça peut aussi supprimer certains types. Par exemple, le miel de châtaignier, qui est un miel que j'adore personnellement, il est de plus en plus rare parce que le châtaignier, si la température dépasse 25 degrés, les fleurs, elles grillent. Donc, je vous laisse deviner la conséquence. S'il fait trop chaud, ce miel-là, il disparaît.
On a lu dans un article qu'il y avait une diminution de nombre d'abeilles à cause du changement climatique. Est-ce que c'est à l'échelle planétaire?
Alors oui, c'est à l'échelle planétaire, mais les apiculteurs essayent de contrecarrer ça et ils travaillent pour élever les abeilles et pour maintenir leur colonie. C'est leur gagne-pain, donc ils vont... J'ai plusieurs amis qui sont éleveurs. Moi, je suis un apiculteur normal. Mais j'ai des amis, c'est des éleveurs. Et alors eux, ils font que de l'élevage et ils travaillent de plus en plus. Et on fait appel à eux de plus en plus. Et c'est de plus en plus dur. On leur achète des reines, on leur achète des cellules royales et ils nous aident pour la reproduction des abeilles. Ils nous fournissent les mamans des abeilles.
Qu'est-ce que vous mettez en place pour préserver vos abeilles?
Alors moi, je suis en agriculture biologique pour les arbres. Donc déjà, je mets des haies, mais vraiment des grosses haies qui font 3 ou 4 mètres d'épaisseur et 3 ou 4 mètres de haut. Vous voyez, pour des haies, c'est déjà bien... C'est presque des petites forêts. Ensuite, je peux mettre des abreuvoirs pour qu'ils manquent jamais d'eau. Je peux choisir des endroits près des rivières où ils ont toujours de l'eau. L'eau, c'est très très important pour les abeilles. On se rend pas compte, mais une ruche, elle boit, il me semble, entre 200 et 300 litres d'eau par an. Et si jamais il fait très chaud, les abeilles, elles ont leur propre clim. Ça va vous faire rire. Comment elles vont faire? Elles prennent de l'eau. Elle rentre dans la ruche et elle bat des ailes en faisant du brouillard. Vous voyez, c'est comme une clim, certaines clim humaines. Oui, c'est quand même bien sophistiqué. On peut aussi planter des cultures qui sont plus résistantes au chaud. On peut aussi choisir des abeilles plus résistantes au climat difficile. Mais ça se fait naturellement, en fait. Celles qui sont faibles, malheureusement, vont mourir.
Les frelons asiatiques sont également des prédateurs pour les abeilles. Comment sont-ils arrivés en France? D'où viennent-ils?
Apparemment, ils seraient arrivés dans un bateau de poterie à Toulouse. Apparemment, ils ont fait des recherches génétiques et toutes les reines frelons ont la même origine. Donc, il y a une reine frelon qui s'est multipliée. Et c'est vraiment un gros problème parce que leur nourriture, c'est quasiment que des abeilles, en fait. Donc, c'est un gros problème. Il me semble que l'année dernière, ils ont tué plus de 1000 nids dans l'Ain. C'est énorme.
L'agriculture intensive et l'utilisation de pesticides, par exemple, sont aussi des dangers pour les abeilles. Est-ce que, finalement, le danger numéro un pour les abeilles, ce ne serait pas l'activité humaine?
Les humains et les abeilles ont cohabité pendant des milliers d'années, en bonne intelligence. Pourquoi est-ce que tout à coup, ces 100 dernières années, on ne pourrait plus cohabiter? Il y a une grosse question à se poser sur ça. Je pense que le destin de l'humanité et des abeilles est intimement lié. Et on ne pourra pas se passer des abeilles. Alors le problème des pesticides, vous savez que c'est un sujet tabou. Il y a beaucoup d'apiculteurs, ils vont refuser d'en parler parce que ils ont des amis agriculteurs qui utilisent ces produits. Mais moi, je dirais que c'est pas la faute des agriculteurs, c'est la faute de ceux qui leur vendent. Alors, il y a eu des progrès qui ont été faits. Il reste des problèmes avec les néonicotinoïdes. Et il y a des recherches toutes récentes qui sont sorties tout récemment. J'ai le papier là sous la main. En fait, les fongicides font des problèmes aussi parce que les fongicides, ils perturbent la digestion, au niveau du pollen, parce que les abeilles ont des bactéries comme nous dans le ventre qui nous aident à digérer, des bactéries et des champignons. Et si on met des fongicides sur les cultures, ça va pas les tuer directement, mais ça va tuer les champignons qui aident les abeilles à digérer. Ça va les rendre malades et elles ne pourront plus tirer les nutriments. Et donc, elles vont s'affaiblir et voilà. Mais on les aide aussi, on évolue avec elles, on s'est rendu quand même compte qu'elles sont importantes. C'est aussi notre mode de vie, encore une fois. Il faut qu'on sache vivre avec la nature et non pas contre. Mais ça, c'est un projet de société, hein. C'est un projet de société gigantesque, de revoir les choses complètement différemment. Mais souvent, on disait les sociétés primitives comme les Indiens, « Oh, ils sont primitifs ». Mais en fait, eux, ils ont vécu des milliers d'années en harmonie. Et pourquoi nous, on ne serait pas capable de faire pareil? Je vous pose la question.
Est-ce que vous pensez que les abeilles seront capables de s'adapter à toutes ces contraintes? Et comment?
Alors nous, on a, il me semble, je crois 3 millions d'années d'ancienneté. Et les abeilles, elles ont 200 millions d'années d'ancienneté. Donc elles ont vu 5 glaciations. Je pense que si on fait des bêtises, il y a plus de chances que ce soit nous qui disparaissions que les abeilles. Parce que des abeilles, t'en as plein d'espèces. Les abeilles domestiques ont été changées par l'interaction humaine. Mais sinon, il y a des abeilles qui se reproduisent très vite, des abeilles sauvages. Il y aura toujours d'autres abeilles qui vont s'en sortir. Donc je pense que c'est plutôt nous qui sommes en danger plus que les abeilles.
Même s'il y a des gens comme vous pour porter un peu le métier et du coup donner un espace et un habitat à ces abeilles, malheureusement l'habitat naturel, lui, est réduit.
Oui, tu as parfaitement raison. Tu as les surfaces qui deviennent de plus en plus grandes, la monoculture, ça vous m'en aviez parlé dans notre discussion préalable. Oui, donc il faudrait revenir à la solution en fait. Ça serait revenir à une agriculture plus paysanne, ce qui donnerait de l'emploi. Ce qui serait bien pour tout le monde, en fait. On vivrait en pleine nature, on aurait plus de joie et plus de bonheur, on serait obligés de travailler ensemble. Et ça, si l'abeille a quelque chose à nous apprendre, c'est l'intelligence collective. C'est travailler ensemble.
J'ai vécu au Brésil, et c'est vrai que c'est des populations qui prélèvent ce dont elles ont besoin, et pas plus, ce qui est le contraire de la culture occidentale totalement néolibérale. Là, j'aime beaucoup cette référence et je pense qu'on devrait s'inspirer de ce genre de mode de vie. Et du coup, vous en faites un bel exemple et ça fait plaisir. Merci.
Je te remercie. Je fais de mon mieux. Mais j'essaie de trouver mon équilibre avec quand même satisfaire mes clients, respecter la nature. Et j'ai aussi beaucoup de plaisir à ce que mes abeilles soient heureuses. Et contrairement à ce que les gens pensent, elles ont vraiment des émotions. Et quand tu leur prends le miel, tu vois qu'elles sont pas contentes. Quand tu leur donnes une nouvelle ruche toute propre, elles sont ultra contentes. Quand tu les soignes bien, elles ont de la joie, elles ont vraiment des émotions. Et moi, en tant qu'ancien chercheur en physique chimie, de découvrir que les abeilles ont des émotions, ça m'a profondément touché.
Les émotions, comment vous les voyez?
Alors, je vais te raconter une histoire. J'avais donc un essaim, c'est un groupe d'abeilles avec sa reine et ses mâles et des ouvrières. Et ils avaient le choix entre deux ruches. Et je voyais que ça bourdonnait assez fort, et j'ai regardé de plus près. Après, j'ai une certaine expérience, j'entends leur façon de communiquer, et je voyais, il y avait des groupes qui se formaient, il y en a qui se tiraient les ailes, il y en a qui... comme s'ils criaient dans un sens et dans l'autre. Et à un moment donné, une fois qu'ils étaient d'accord, comme une seule masse, ils sont allés dans la ruche qu'ils avaient choisie. Donc, il y a eu forcément coordination, parce que pour faire un mouvement de 50 000 abeilles en une seule fois, forcément, elles se sont parlées. Enfin, communiquées. Les abeilles ont en effet un langage mathématique et elles ont 7 ganglions nerveux et elles fonctionnent beaucoup, encore une fois, en collectif. Elles ont une forme d'intelligence différente de la nôtre. Et ça, c'est passionnant. Si les humains pouvaient accepter qu'il y ait d'autres formes d'intelligence qu'eux-mêmes, on ferait un progrès capital.
Merci à vous.
Merci à vous quatre.
L'être humain est au cœur du dérèglement climatique.
Il faut vraiment s'intéresser à ce sujet, réfléchir ensemble et s'inspirer des abeilles.
Cette espèce nous prouve que la nôtre va devoir s'adapter.
En attendant, on vous laisse réfléchir à tout ça.
À bientôt sur Radio B. On a cassé la planète.
tout le monde savait.
Dans la vie, il y a des cactus, et sur ce même cactus, depuis, il y a du plastique. Aïe, sur les plages de Koh Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Il y a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un Capri Sun à la dérive qui finit sur la rive dans la bouche d'une tortue. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Sur les buildings pékinois, le smog made in China. Les usines crachent leurs poumons. On est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton. On mange des glaces en février. Y'a plus de glace sur les glaciers, les sources polaires vont transpirer. Bulldozer dans les forêts, l'orang-outan est délogé pour la pâte à tartiner. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffeur. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
Il est trop tard. Que sommes-nous face à l'euro, le dollar? Un bout de charbon dans une marée noire. Une tumeur qui ne crée que des cauchemars. Puis je me concentre sur ce que je veux donner. Une énergie commune qui peut rassembler. Je m'apprêtais à contacter le SAV. Mes numéros et des vies sur ma ligne.
On a cassé la planète.